Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Cet après-midi, alors que nous tournons dans la parole de Dieu, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Daniel, le cinquième chapitre. Daniel, le cinquième chapitre. Et le titre de mon message est celui-ci. La mesure de Dieu. La mesure de Dieu. Ne riez pas de moi, mais lorsque j'étais adolescent, par accident, j'ai tué mon chat. Merci. Mes parents s'étaient fait offrir un chat qui était très joli, qui se vendait très cher sur le marché. C'était, je sais pas comment c'est en France, mais chez nous, un chat siamois, c'est un chat qui vaut, on appelait ça un chat siamois angora. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire, mais c'était une grosse boule de poils. Et quand il sortait du bain, qu'on le séchait comme ça, pouf, il devenait une grosse boule de poils. Et on lui avait donné le nom de Pacha. Parce que Pacha ne faisait absolument rien dans la vie. Tout ce qu'il faisait, c'était de ramasser toutes les poussières par terre comme ça lorsqu'il marchait. Il allait se cacher sous le canapé et il faisait deux choses dans la vie. Il mangeait et il dormait. Et en passant, il était extrêmement antisocial. On pouvait jamais le prendre, on pouvait jamais le trouver. On savait, même parfois, on pouvait passer des mois sans savoir vraiment s'il existait. Parce que Pacha, très tôt le matin, avant que je me lève, parce que les ados, on se lève le plus tard qu'on peut. Et moi, le car était devant la maison à 7h10 le matin. Alors, je sortais de mon lit à 7h05. Et puis, j'avais le temps d'attraper un truc. Et puis, alors, je voyais jamais le chat. Il se levait le matin comme ça, tout ça. Et puis, Pacha... Et avait une belle apparence extérieure, mais il n'y avait pas de cœur. Il n'y avait rien en dedans, mais il y avait, dans le vrai sens du terme, il n'avait presque pas de cœur. Il n'avait jamais bougé. Son cœur battait comme ça. Pendant des années, jamais aucun stress. Et un matin, je me suis levé beaucoup plus tôt. Et puis, je monte à l'étage et je vois Pacha qui dort sur la moquette dans le salon, sur le dos. Et comme un seul, comme un jeune homme de 12 ans peut imaginer un truc comme ça, j'arrive, je me suis dit, je vais le réveiller. Je vais faire son cadran ce matin, son réveil matin. Et puis, j'arrive comme ça, je m'approche tout près du chat comme ça. Et je mets ma main sur son petit bedon plein de poils. Et je fais, Pacha! Et Pacha a une attaque cardiaque. Une vraie crise de cœur. Il a secoué ses pattes comme ça. Il a fait... Il est mort. Ne quittez pas la salle. Priez pour moi. C'était un accident. Mais Pacha représente pour moi... C'est l'image, j'allais dire que je suis très profond, mais écoutez-moi bien. Pacha avait tout sur le plan extérieur. Il était blanc, il avait des longs poils, il valait cher et tout. Il savait comment marcher et tout, il avait du style. Mais à l'intérieur, il avait rien. Et vous voyez, dans un instant, je vais demander au jeune homme de se préparer à la vidéo. Dans un instant, on va regarder une vidéo ensemble de la compagnie, l'entreprise Dove, qui fait tout son marketing présentement sur l'image intérieure, beaucoup plus que sur l'image extérieure. Les jeunes, le titre de mon message est celui-ci, la mesure de Dieu. Vous vivez et je vis dans une société qui mesure les jeunes. Les jeunes se mesurent. Mais tout est axé sur l'extérieur. Tout est axé sur l'apparence. Très, très, très peu est accordé à l'intérieur. T'es prêt? On va la lancer dans un instant. T'es prêt? OK, vas-y. On va regarder cette vidéo tout de suite. Merci. Ce que vous voyez dans les revues, dans les magazines, sur les affiches, partout autour de vous, ce n'est pas la réalité. Beaucoup, beaucoup de transformations. Avez-vous cru, que vous croyez ou non, même moi, je pourrais devenir une star. Hein? C'est incroyable, toutes les transformations qu'ils font. Saviez-vous que présentement, certains mannequins sont refusés dans des parades de mode parce qu'elles sont trop maigres? Saviez-vous que même les mannequins les plus menus, les plus fines, on va leur rétrécir la taille de 14%. Il y a présentement, écoutez-moi bien, une pression d'extérieur, de beauté, de mesure extérieure sur les jeunes hommes aussi, sur les jeunes femmes dans cette société de beauté. Il y a des standards de beauté qui sont inhumains. Il y a des standards de beauté qui sont inatteignables. J'aimerais vous dire ceci. Nous vivons dans une société qui mesure. Les hommes se mesurent, les jeunes se mesurent les uns les autres. Un jour, j'étais comme ça, j'étais en train de garer la voiture en ville, et puis mon épouse sort de la voiture pour aller payer le parking. Et pendant qu'elle paye le parking, il y a une femme qui passe et qui regarde ma femme comme ça, de la tête aux pieds, qui la regarde. Les gens se mesurent, ils regardent comment ils sont habillés, ils regardent les chaussures qu'ils portent. Voyez-vous, si on se mesurait pas, il y aurait pas de mode, il y aurait pas de marque, il y aurait pas de petits logos sur les voitures, il y aurait plein de trucs qui seraient enlevés dans cette société qui sont là parce que les gens se mesurent, les jeunes se mesurent, les jeunes mesurent les autres jeunes à l'apparence extérieure. Croyez-moi, même les adultes se mesurent. Ils mesurent la maison, ils mesurent les comptes de banque, ils mesurent le titre, ils mesurent la popularité, ils mesurent la voiture qu'ils conduisent. Les sociétés, les entreprises sont cotées à la bourse. Elles ont une valeur, elles sont mesurées. Les nations présentement se mesurent l'une à l'autre. Croyez-vous que l'Iran est en train d'essayer de développer l'arme nucléaire juste pour le plaisir? Non, elle veut se mesurer à l'Amérique. Elle veut se mesurer au monde. Elle veut montrer qu'elle est une grande nation. Partout autour de nous, les jeunes, de la naissance presque, si je peux m'exprimer ainsi, jusqu'à la mort, les hommes se mesurent. Mais je suis venu vous dire ceci aussi. Écoutez-moi bien. Dieu aussi mesure. Les hommes mesurent, mais présentement, Dieu qui est vivant, qui est bien réel, lui aussi mesure. Je ne parle pas d'une pensée eschatologique, apocalyptique, de la fin des temps, qu'un jour, chacun d'entre nous, nous allons nous retrouver devant le trône de Dieu et que Dieu va nous mesurer. Mais écoutez-moi bien, les jeunes, c'est biblique, c'est fondamental. Présentement, Dieu mesure chacun d'entre nous. Trois reprises dans le livre des Proverbes, la Bible dit que Dieu pèse les cœurs, que Dieu mesure les cœurs. Jésus a dit, on vous mesurera à la mesure que vous utilisez pour mesurer. Mais le contexte, c'est un contexte, ce n'est pas un contexte d'un jour devant le trône de Dieu, c'est un contexte de maintenant. Écoutez-moi bien, le monde a son système pour mesurer. Le monde, cette société, a développé tout un système de valeurs, anciennement, ceux qui nous ont précédés dans les générations avant nous, on a connu des générations où il y avait des ducs, des duchesses, des seigneurs, des ci, des ça, et puis on descendait. Chaque homme était mesuré, chaque homme avait un rang dans la société. Aujourd'hui, c'est la même chose. Peut-être qu'on n'a pas un titre de duc, de duchesse ou de seigneur, ou peu importe, mais les hommes se mesurent. Ils essaient de voir quelle est la mesure de l'un, la valeur de l'un, quelle est ma valeur à moi. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui souffrent de cette pression de la société qui est sur eux d'avoir une plus belle valeur, une plus belle apparence extérieure. Mais je suis venu vous dire ceci, les jeunes, écoutez-moi bien. Dieu aussi mesure. Et nous allons regarder ensemble en quelques minutes. Premièrement, la façon de Dieu. Et deuxièmement, la raison de Dieu. Premièrement, la façon de Dieu. Dieu mesure. Les hommes se mesurent, mais Dieu aussi mesure. Et dans Daniel, le 5e chapitre, il y a un moment qui est très marquant pour nous ici, les jeunes. Un moment qui est très touchant. Il y a un roi, c'est l'Empire babylonien, il y a un roi qui s'appelle Belshazzar. Il siège sur le trône. Et ce roi, il a tout. Et alors qu'il fait une grande fête, alors que pendant plusieurs jours, c'est un party, c'est une fête incroyable qui dure des jours sur des jours, et la nourriture abonde, et l'alcool coule à flot, et c'est la musique, on danse, c'est une boom qui dure pendant des jours, c'est la haute sphère seulement de la société, la haute classe, les plus près du roi, pendant des jours, ils s'éclatent, et soudainement, en plein milieu du party, en plein milieu de la fête, la Bible dit qu'une main apparaît sur le mur. C'est écrit dans la Bible, une main apparaît sur le mur et elle se met à écrire un truc que le roi ne peut pas comprendre. Et vous savez ce que la Bible dit? Vous pourrez le lire à la maison si vous ne le croyez pas. La Bible dit que le roi a été tellement paniqué lorsqu'il a lu ça. La Bible dit que ses reins se sont relâchés. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps d'aller à la toilette. ses reins se sont relâchés. Le roi assis sur son trône, ses reins se sont relâchés quand il a vu la main écrire. Et là, fini la fête. La musique est arrêtée, l'alcool est tombé par terre, tout le monde a arrêté de danser. Et le roi dit, faites venir tous les sages, faites venir les magiciens, les astrologues, faites venir les conseillers. Et quelqu'un doit m'expliquer quelle est cette main qui écrit sur le mur. Et personne n'a pu donner l'interprétation au roi. Et finalement, le roi fait venir, sur le conseil de quelqu'un, le roi fait venir Daniel, qu'il ne connaissait pas. Nebuchadnezzar, son père le connaissait, mais Belshazzar ne le connaissait pas. Il fait venir ce vieil homme, âgé, mais qui était un homme de Dieu. Et Daniel s'approche du roi. Il va donner l'interprétation de la main. Et regardez avec moi si vous avez votre Bible. Sinon, écoutez bien ceci. Daniel, chapitre 5, verset 22, nous dit ceci. « Or, toi, son fils Belshazzar, tu n'as pas humilié ton cœur, bien que tu aies tout cela, que tu aies su tout cela. Tu t'es dressé contre le Seigneur du ciel. » Les ustensiles de sa maison étaient apportés en ta présence, et toi-même et tes dignitaires, tes concubines, tes femmes de service, vous buvez du vin dedans. Tu as loué les dieux d'argent et d'or, de bronze, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient, ni n'entendent, ni ne connaissent. Et le Dieu qui a dans sa main le souffle de ta vie et à qui sont toutes tes voix, tu ne l'as pas honoré. Verset 24. Alors de sa part, le tronçon de main fut envoyé et cette inscription fut tracée. Et voici l'inscription qui a été tracée. Méné, Méné, Tékel ou Parsine. Quant à l'interprétation, la voici. Méné, comptez. Dieu a fait le compte de ton règne, il y a mis fin. Et maintenant, vous allez voir pourquoi. Tékel, pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé insuffisant ou léger. Ou on aurait pu traduire manquant de poids. Regardez-moi ici un instant. Dieu pèse les cœurs, Dieu mesure les vies de chaque jeune qui est ici aujourd'hui. Il mesure la mienne, il mesure la vôtre. Mais Dieu ne mesure pas comme nous mesurons. Dieu a sa façon de mesurer. Écoutez-moi bien. Dieu ne mesure pas en considérant l'extérieur. Belshazzar avait tout sur le plan extérieur. Il était populaire, il avait de l'autorité, il avait du pouvoir, il avait de la richesse, il avait le droit de vie ou de mort sur tous les gens de son royaume. Il pouvait, si quelqu'un lui plaisait pas, il pouvait le mettre à mort comme ça. Il était craint, il était vénéré, il était respecté. Même à l'époque, dans ses cultures, ses hommes, ses empereurs étaient perçus comme des fils des dieux, parfois des demi-dieux. Même parfois, ils étaient priés, ils étaient adorés. Littéralement, Belshazzar avait tout. Il avait toute la gloire, la grandeur, le sommet qu'un homme ne pourrait pas atteindre. Lui, il l'a atteint. Il avait tout. Il avait les jolies femmes, il avait le party dans toute cette salle de royaume. Il avait les beaux vêtements. Il avait les plus beaux vêtements de mode de son époque. Mais Dieu est arrivé à un moment comme ceci. Il a tracé une ligne pour nous montrer qu'est-ce qui a de la valeur? Comment est-ce que Dieu s'y prend pour mesurer une vie, les jeunes? Regardez ce que Dieu a dit. Tu as été pesé et tu as été trouvé léger, insuffisant. Les jeunes, écoutez-moi bien. Dieu pèse les cœurs, il mesure les vies, mais il regarde à l'intérieur. Dieu regarde, voyez-vous, le ciel et la terre vont passer. La mode, de toute façon, la mode passe. Hein, ça prend à peu près 6 mois, puis il y a des trucs qui sont même plus à la mode. L'extérieur est si peu important. Et alors que toute une société met une pression sur les jeunes, sur le plan d'extérieur, l'extérieur, l'extérieur, Dieu vient cet après-midi, je crois de tout mon cœur, par l'onction de son Saint-Esprit. Il veut arrêter l'horloge, il veut arrêter la pendule effrénée un instant et dire non! Moi, je vais te dire comment je calcule. Moi, je vais te dire comment je mesure. Moi, je vais te dire comment je pèse une vie. Je ne regarde pas à l'extérieur. Et il nous pointe un homme qui s'appelait Belshazzar, qui avait tout sur le plan extérieur, mais Dieu a dit non. Même c'est fini pour toi ce soir. Et la Bible nous dit que la même nuit, cet homme s'est éteint. Parce que dans l'intérieur, son cœur était tellement léger. Comment est-ce que Dieu pèse un cœur, jeune homme, jeune fille? Comment est-ce que Dieu accorde de la valeur? Je crois que l'homme, dès le départ, l'homme a une valeur de départ. La valeur de départ de l'homme, nous ne pouvons pas l'établir. Parce que pour connaître la valeur d'une âme, il faut regarder Jésus à la croix, qui est le Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour toi. Et Dieu croit que chaque jeune a tellement de la valeur qu'il a fait venir son Fils est venu, son propre Fils, qui lui a une valeur inestimable, est mort pour nous. Donc nous ne pouvons même pas connaître notre vraie valeur de départ. Comment vaux-tu au départ pour Dieu? Mais écoutez-moi bien. Chaque jeune sans Dieu est comme un diamant brut. Quand on trouve un diamant, c'est une pierre, c'est un petit caillou blanc. Et tant aussi longtemps qu'il n'est pas raffiné, ce n'est qu'un caillou blanc. On pourrait même le confondre avec d'autres petits cailloux. C'est comme un lingot d'or brut. Il faut le raffiner, il faut le modeler, il faut le purifier, l'or. Chaque personne qui est ici aujourd'hui, devant Dieu, il n'y a pas de plus grand ou de plus petit. Il n'y a pas personne qui a une plus grande valeur. Tous les hommes sont égaux devant Dieu. Mais écoutez-moi bien. Et c'est une valeur de départ. Parce que la Bible enseigne clairement que certains hommes sont légers devant Dieu. Et que certains hommes, quand je parle d'hommes, je parle de l'humanité en général. Certains jeunes hommes, certaines jeunes femmes ont du poids pour Dieu. Maintenant, voyez-vous, nous, on vit dans une société qui est très différente. Aujourd'hui, plus c'est léger, plus ça a de la valeur. Plus c'est léger, plus c'est cool, plus c'est à la mode. Voyez-vous, moi, il y a une dizaine d'années, j'étais sur Haïti, j'étais missionnaire là-bas. Et j'ai vu un homme, un Haïtien, qui est débarqué comme ça dans un village. Il s'était payé un billet d'avion, il avait été sur Miami. Et puis, il avait été dans un petit magasin. Et il avait ramené une grosse caméra, une très, très grosse caméra de télé. Il n'avait pas d'électricité, il n'avait pas de pile, il n'avait pas de cassette pour mettre dedans. Il n'avait rien à filmer, mais il se baladait comme ça dans le village, toujours, tous les matins. Il se levait, il attrapait sa caméra, elle la mettait sur son épaule. Puis lui, il croyait que ça avait de la valeur, parce qu'elle était grosse. Parce que dans sa société à lui, plus c'est gros, plus c'est lourd, plus ça a de la valeur. Mais aujourd'hui, les jeunes se baladent avec des téléphones qui ont des caméras à l'intérieur. Et plus ton téléphone portable il est petit, plus il est fin, plus il est raffiné, plus il est léger, plus il a de la valeur. Plus ton lecteur MP3 est tout petit. Voyez-vous, il y a des jeunes qui vont arriver tout à l'heure avec leur bague. T'as vu mon lecteur MP3? Ouais, il fait n'importe quoi. Ouais, j'ai mon téléphone, j'ai télévision, j'ai tout. Ouais, je peux appeler mes... Allô, ça va? Oui, ça va. Plus c'est petit, plus c'est fin, plus c'est léger, plus ça a de la valeur. C'est une société comme ça. Croyez-vous que les dames, lorsqu'elles se mettent les deux pieds sur la balance pour se peser, et qu'elles regardent, et qu'elles ont pris du poids, qu'elles croient qu'elles ont pris de la valeur? Pour les femmes, lorsqu'elles sont sur la balance, plus c'est léger, plus elles ont de la valeur. Moi, je dis pas pour Dieu, mais pour elle. Oh, mais j'ai pris un kilo. Oh, j'ai perdu de la valeur. Mais à l'époque de Salomon, à l'époque de la Bible, à l'époque de Daniel, c'était le contraire. Quand on disait que ça a du poids, quand on disait d'une chose qu'elle a du poids, quand Dieu dit de Belshazzar, t'as le cœur léger, c'est pas qu'il voulait dire, ah, t'as le cœur moderne. Ah oui, t'as vraiment le cœur MP3, iPod, super portable, machin truc. Ah oui, Belshazzar, t'es vraiment à la fine pointe de la technologie, j'ai pesé ton cœur, il est vraiment léger. T'es vraiment le nouveau cœur dernier cri, toi. Non. Quand Dieu a pesé le cœur de Belshazzar, et qu'il a dit ton cœur est léger, c'est qu'il parlait qu'il manquait de valeur. Écoutez-moi bien les jeunes. Dieu veut mettre une charge, il veut mettre du poids dans ta vie. Il veut que tu prennes de la valeur. Et maintenant je vais vous dire comment. Comment est-ce qu'un jeune homme et une jeune femme peut prendre de la valeur cet après-midi? Voyez-vous, ce que je vais dire dans un instant va venir attaquer et confronter votre entendement et votre intelligence. Parce que c'est sur le plan spirituel, ce n'est pas intellectuel, c'est difficile. La Bible dit que l'homme, l'apôtre Paul a dit de ses réalités spirituelles, que l'homme humain dans sa nature charnelle et déchue et en lui-même, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Elles sont tellement supérieures, elles sont tellement profondes et spirituelles. Ce que je vais vous dire dans un instant, je sais que certains d'entre vous, vous allez résister dans votre esprit. Ça va être tellement simple ce que je vais vous dire. Certains d'entre vous, vous allez dire, non, ça se peut pas. Ça se peut pas que ce soit juste ça qui donne de la valeur à ma vie. Mais écoutez-moi bien. Dans le livre de Jérémie se voit confronté à des faux prophètes. D'un côté, il y a Jérémie qui parle pour Dieu avec une vraie parole. Et de l'autre côté, il y a des faux prophètes qui disent qu'ils parlent pour Dieu eux aussi. Écoutez-moi bien. Et la Bible dit ceci. Les deux disent la même chose quand ils se mettent à parler. Ils utilisent une expression qui est ceci. Oracle de l'Éternel. Les deux commencent en disant au roi, « Ah, oh, moi je vais vous parler de la part de Dieu. » Oracle de l'Éternel, voici ce qui doit arriver. Et à un moment donné, Dieu parle à son serviteur Jérémie, il dit, « Va voir ces faux prophètes et dis-leur qu'ils arrêtent de dire oracle de l'Éternel, je n'en peux plus les entendre. » Vous savez pourquoi? Parce que le mot oracle de l'Éternel veut dire poids, charge, lourdeur. En fait, ce que Dieu est en train de dire, c'est que l'homme sans Dieu, quand il parle, c'est léger. Mais quand Dieu vient dans la vie d'un homme, écoutez-moi bien, la parole de Dieu dans la vie d'un jeune lui donne du poids. La parole de Dieu dans la vie d'un adolescent même amène une valeur. Et quand un homme de Dieu se levait et qu'il disait, moi je vais vous donner la parole de Dieu, alors quand il disait alors à l'époque, oracle de l'Éternel, en fait ce qu'il voulait dire, c'est la parole de Dieu n'est pas comme la parole des hommes. La parole de Dieu, elle a du poids. Et quand un homme se levait et disait, oracle de Dieu, en fait il disait, poids de Dieu, fardeau de Dieu, charge de Dieu. Parce que les jeunes, écoutez-moi bien, ce qui donne de la valeur dans la vie d'un jeune, c'est la parole de Dieu. Mais je ne parle pas cet après-midi de simplement un jeune qui s'assoit à la maison et qui lit la Bible, même s'il est très important que tu puisses la lire. Il y a deux expressions bibliques pour parole de Dieu. Il y a l'expression logos, qui veut dire la pensée de Dieu. Le logos, c'est toute la Bible. Mais cet après-midi, je veux mettre l'emphase sur une deuxième expression biblique qui est très importante pour nous. C'est l'expression un réma dans la parole de Dieu. Et c'est lorsque Dieu prend sa parole, il prend ce qui est écrit et il le vivifie. Ce qui est présentement peut-être sur ta cuisse ou à côté de toi, ce livre qui est à côté de toi, est beaucoup plus qu'un livre. C'est une parole de Dieu. C'est la parole logos. Mais de ce livre, Dieu peut susciter une phrase parfois, un verset parfois, pour te parler. Il l'embrase, il la rend vivante. Le réma, c'est une révélation de Dieu qui sort comme une flamme de Dieu. La Bible dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu consumant, comme un marteau qui fait exploser le roc? Et Dieu prend cette parole et il vient la déposer dans le cœur des jeunes. Et elle amène une valeur, elle amène un poids, elle amène une mesure et elle donne de la valeur à une âme. Écoutez-moi bien, c'est complètement à contre-courant ce que je suis en train de dire. C'est complètement à l'inverse de la société. La société, voyez-vous comment la pensée de Dieu vient à contre-courant? Toute la société te dit d'avoir plus d'argent, de courir à droite et à gauche pour prendre de la valeur sur le plan extérieur. Et Dieu dit, ce qui donne de la valeur à un jeune, c'est lorsque la parole de Dieu rentre dans sa vie, qu'elle vient embraser son cœur. Écoutez ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Écoutez-moi bien les jeunes. Je crois de tout mon cœur que le désir de Dieu, c'est que sa parole soit déposée dans ta vie, dans ton cœur, qu'elle puisse t'embraser et accorder une grande valeur à ta vie. Premièrement, nous avons vu ensemble, et je termine dans un instant, premièrement, nous avons vu la façon de Dieu, nous allons terminer avec cette pensée, la raison de Dieu. Marc, le 4e chapitre, restez avec moi, même si l'image apparaît à l'écran, ne vous pas détourner par ce truc-là, restez avec moi. Je termine avec cette pensée, la raison de Dieu. Dans Marc, le 4e chapitre, Jésus est en train d'enseigner les foules. Il est en train de prêcher. Et il y avait des jeunes qui venaient l'écouter prêcher. Et alors que Jésus est en train d'enseigner, est en train de prêcher aux foules, la Bible nous dit ceci. Jésus, tout à coup, arrête de prêcher. Il les regarde. Vous savez ce qu'il leur dit? Il dit, prenez garde à la façon dont vous écoutez. Écoutez-moi bien. Jésus dit, prenez garde à la façon dont vous écoutez. Car on vous mesurera. Vous savez ce que Jésus est en train de dire aux foules? Pendant que vous m'écoutez, moi je vous mesure. Chaque personne qui est ici cet après-midi, chaque jeune, écoute la parole de Dieu avec une certaine attitude de cœur. Malheureusement, c'est une grande tristesse. Mais depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours des jeunes qui écoutent la parole de Dieu avec légèreté. Leurs pensées sont ailleurs, ils s'écoutent, ils sont là, ils pensent à d'autres trucs. Et Jésus dit, prenez garde à la façon dont vous écoutez, car on vous mesurera avec la mesure que vous utilisez pour mesurer. Vous savez ce que ça veut dire? Pendant que les foules écoutaient Jésus prêcher, Jésus regardait leur cœur. Lui seul, il jugeait chaque cœur et il mesurait Et il accordait une valeur à chaque cœur. Pendant qu'il prêchait, il pouvait mesurer, il pouvait discerner chacun des cœurs. Et il est en train de dire ceci. Je sais que vous me mesurez quand je vous enseigne. C'est ça que Jésus a dit aux foules. Je regarde le sérieux que vous accordez à la parole de Dieu. Et Jésus dit aux foules, plus vous mesurez grandement, sérieusement et avec révérence la parole que je vous enseigne, eh bien, plus je mesure une faveur à donner sur votre vie, plus je mesure une puissance à vous accorder, plus je mesure de délivrance, plus je mesure de bonté, plus je mesure de bénédiction. Écoutez-moi bien les jeunes cet après-midi, vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec moi. Mais le salut en Jésus-Christ, il est gratuit, il vient par la foi en Jésus. Mais l'onction, la faveur de Dieu, la bénédiction sur la vie d'un jeune, elle n'est pas gratuite. Elle n'est pas à prendre à la légère, pas plus que le salut. Mais la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, la puissance de Dieu, la transformation de Dieu dans la vie d'un jeune chrétien, ça c'est pas gratuit. Le salut est gratuit, mais l'onction, la faveur, la bénédiction sur une vie, elle n'est pas gratuite. Et c'est ça que Jésus a dit aux foules. Il a dit, prenez garde à comment vous écoutez ce que je vous dis. Parce que moi je vous mesure, je prends la même mesure que vous utilisez pour me mesurer. Et Jésus a dit aux foules, plus vous accordez de sérieux à moi quand je vous parle, eh bien plus moi je vous accorde de sérieux dans ma réponse en retour. Les jeunes, écoutez-moi bien. Je termine dans un instant. Mais chaque personne qui est ici cet après-midi, Dieu ne te demande pas d'être parfait, de devenir bon par tes propres forces, de devenir meilleur, de te sanctifier toi-même, de faire tout par tes propres forces, d'être à ton meilleur. Dieu ne te demande pas de faire des bonnes œuvres pour mériter qu'il prenne soin de toi. Mais écoutez-moi bien. Dieu te demande une seule chose. À quel point est-ce que tu prends les choses de Dieu au sérieux? Dieu nous mesure. Dieu me mesure dans ma propre vie. Plus un jeune prend Dieu, les choses de Dieu au sérieux, plus Dieu prend ce jeune au sérieux en retour et il le bénit. Moi, j'ai été pasteur de jeunes pendant une dizaine d'années. Et ça a été longtemps une grande énigme pour moi. Pourquoi est-ce que certains jeunes s'avançaient devant pour prier, étaient foudroyés par Dieu, touchés par Dieu, visités de Dieu, vivaient des moments avec Dieu, des jeunes qui vivaient des choses extraordinaires avec Dieu, des jeunes qui sont débarqués à l'église avec toutes sortes de chaînes dans leur vie, des jeunes hommes qui étaient pris par la pornographie sur Internet, pris par des choses, une colère, une révolte dans leur vie, des jeunes qui étaient sur la drogue, l'alcool, qui venaient s'agenouiller devant Dieu, Dieu les délivrait, Dieu les bénissait, il rebâtissait leur vie, il bénissait leur entreprise, il était avec eux, il était là, il marchait devant eux, derrière eux, à droite, à gauche, il les soutenait, il bénissait leur vie à côté d'un autre jeune qui constamment tourne en rond, réunion après réunion après réunion, et jamais rien ne change. Et de ces jeunes, parfois, sont venus me voir et m'ont dit, « Pasteur, pourquoi est-ce que moi, Dieu ne me bénit pas? Pasteur, pourquoi est-ce que moi, je suis jamais touché de Dieu? Pourquoi est-ce que moi, je m'avance devant et il ne se passe rien dans ma vie? » Et longtemps, je me suis demandé, « Mais pourquoi, Seigneur? Est-ce qu'il y a des élites? Est-ce qu'il y a des choisis? Est-ce que Dieu a des chouchous? Est-ce que Dieu préfère certains jeunes que d'autres? » Non, 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 non. Quand je suis tombé sur ce verset, le Saint-Esprit a ouvert mon cœur, m'a révélé ceci. « Moi, je mesure le cœur de chaque jeune qui écoute ma parole. Et un jeune qui est sérieux avec les choses de Dieu, je suis sérieux en retour avec lui. » Écoutez-moi bien. Je crois que l'Église doit être un endroit de liberté, de joie. Je crois qu'à l'Église, on peut célébrer le Seigneur. Je crois que l'Église ne doit pas être un endroit lourd et religieux et monotone. Mais je crois que dans nos cœurs, nous pouvons toutefois, en toutes circonstances, accorder une grande révérence, les jeunes, à la parole de Dieu. Voyez-vous, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui secrètement souffrent dans leur cœur. Des jeunes filles, des jeunes femmes qui ont beaucoup de difficultés à s'accepter, à s'aimer. Des jeunes hommes qui ont une grande difficulté à s'aimer, à s'accepter. Et la seule façon qu'une vie peut vraiment changer, c'est si la parole de Dieu rentre dans ton cœur, que tu la laisses entrer avec un grand sérieux, que tu la crois et que tu puisses dire cet après-midi, « Seigneur, tout ce que je veux, c'est que ma vie ait plus de valeur devant toi. Seigneur, peu importe ce que mes amis disent de moi, peu importe ce qu'on dit à l'école, peu importe mon entourage, ma famille, mon voisinage, toute cette société, ce que je vois à la télé, tout ce qu'on me dit qui a de la valeur. Seigneur, moi je sais dans mon cœur que ce qui a vraiment de la valeur, c'est quand tu déposes ta parole en moi. Parce que le ciel et la terre vont passer, mais sa parole ne passera jamais. Elle vit éternellement, les jeunes. Vous savez pourquoi Dieu veut mettre sa parole dans votre cœur? Un jeune, c'est comme un grain de sable. Et Dieu est comme une huître. Et vous savez comment on fait des perles? C'est quand un petit grain de sable rentre dans une perle. C'est pas sa place dans une huître. Quand un grain de sable rentre dans une huître, c'est pas sa place. Il n'est pas le bienvenu dans l'huître. Il n'est pas digne d'être dans l'huître. Il n'y a rien dans l'huître qui correspond au grain de sable. Parce que l'huître est remplie de nacre. De tout bord, tout côté, l'huître est remplie de nacre, hein, sur toutes ses parois. Et le grain de sable, lui, il vient déranger l'huître. Il la graffigne. Et l'huître, elle est dérangée par ce grain de sable. Alors, vous savez ce qu'elle fait? Plutôt que de le cracher, vous savez ce qu'elle fait? Elle commence à le recouvrir de nacre. Parce que le nacre est doux. Et elle recouvre le petit grain de sable d'elle-même, de sa propre nature. Et elle commence à recouvrir le petit grain de sable de nacre. Et il devient plus doux. Et elle ne cesse jamais de recouvrir le petit grain de sable de nacre. Alors il grandit. Et ça devient tranquillement une perle. Et un jour, quelqu'un la prend. Et la mesure. Et plus elle est grosse, plus on lui accorde de valeur. Vous savez comment Dieu mesure un jeune? Chaque jeune qui est ici aujourd'hui est indigne devant Dieu. Chacun d'entre nous. Toi et moi, on est comme un grain de sable. Parce que toi et moi, on a péché. On a fait des erreurs. Il y a des jeunes qui sont ici aujourd'hui, vous avez des remords, vous avez des regrets. Il y a des jeunes femmes, des jeunes filles, vous avez fait des erreurs. Vous avez beaucoup de regrets. Vous traînez des secrets avec vous qui vous font mal. Et vous vous dites, comment est-ce que je pourrais rentrer dans la présence de Dieu? Je suis comme un grain de sable dans une huître. J'ai rien à faire ici. Je ne mérite rien. Je me sens tellement inconfortable dans la présence de Dieu. Mais le Seigneur, plutôt que de te rejeter, il veut te prendre. Mais il veut faire une seule chose avec toi. Voyez-vous, Dieu ne veut pas prendre le grain de sable et lui acheter des toutes nouvelles chaussures à la mode et le recouvrir avec des beaux vêtements. Il ne veut pas prendre le grain de sable et la maquiller et la coiffer. Non, 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 non. Voici ce que Dieu veut faire avec le grain de sable. Il veut le recouvrir de sa propre nature. Dieu veut te prendre et il veut te couvrir de plus en plus dans ta vie. Te couvrir de sa présence, te couvrir de son onction, te couvrir de sa parole. Et plus il te couvre, plus il couvre ta vie de sa présence, plus ta vie prend de la valeur. Et croyez-moi, même dans ce monde, un jeune rempli de Dieu se démarque d'une façon incroyable. Je demande à tout le monde de pencher la tête, de fermer les yeux, j'ai terminé. Je vais inviter Pierre à s'approcher à la guitare, peut-être juste Pierre à la guitare. J'aimerais faire un appel cet après-midi. Hallelujah. Les jeunes, la majorité d'entre vous, vous ne me connaissez pas, et moi non plus, je ne vous connais pas. Mais c'est tellement peu important. Ce qui est important cet après-midi, c'est que le Saint-Esprit te connaît, Jésus te connaît, et que tu sais toi aussi qui il est. Il est ton sauveur, il est tout pour toi. Mais peut-être que tu es ici cet après-midi et tu as fait des erreurs, des manquements, et tu te sens comme un grain de sable dans une huître. Tu te sens tellement indigne. Peut-être que tu te dis dans ton cœur, j'ai péché contre Dieu. Comment est-ce que je pourrais imaginer que Dieu dépose en moi ce qui a vraiment de la valeur? Voyez-vous, souvent les jeunes mettent tellement, investissent tellement sur leur apparence, parce qu'à l'intérieur, ils se sentent tellement malheureux et vides. Le Saint-Esprit veut te dire cet après-midi, viens tel que tu es. Même si tu es tombé, même si tu as manqué, même si tu t'es éloigné de moi, viens tel que tu es cet après-midi. et je veux te couvrir de ma nature, de ma présence. C'est Dieu qui donne de la valeur à une vie. C'est Dieu qui accorde de la valeur à une vie. Hallelujah. Hallelujah. Précieux Seigneur Jésus. J'aimerais faire un appel cet après-midi. J'aimerais prier pour certains d'entre vous. Il y a des jeunes qui sont ici alors que je priais. Je sentais tellement dans la prière qu'il y a des jeunes qui sont ici qui se battent avec ce que les hommes ont pu dire de toi. Il y a des jeunes hommes, il y a des jeunes femmes qui sont ici. Il y a une parole de mort qui a été prononcée sur toi. Peut-être un papa, peut-être une maman même. Quelqu'un de près qui peut dire « t'es juste un ci, t'es juste un ça ». Hallelujah. Regardez-moi ici un instant. Levez la tête, regardez-moi ici un instant. Voyez-vous, Daniel est débarqué à Babylone. Et quand Daniel est débarqué à Babylone, les Babyloniens ont changé son nom. Les Babyloniens ont dit à Daniel, « Tu t'appelais Daniel, maintenant tu vas t'appeler Belshazzar. » Et le mot Belshazzar voulait dire, « Tu appartiens, je le vulgarise, je le simplifie. » Le mot Belshazzar voulait dire, « Tu appartiens à Bel. » Bel, c'était le dieu des Babyloniens. Bel, c'est la plus vieille divinité païenne connue dans l'histoire de l'humanité. Et Bel, c'est un synonyme de Satan. Et quand on a dit à Daniel, tu vas t'appeler Belshazzar, en fait, c'est comme si on parce que sur le nom de Daniel, il y avait le nom de Dieu. C'est comme si on retirait à Daniel son identité. C'est comme si on violait Daniel de son identité et qu'on mettait une malédiction sur lui. Écoutez-moi bien. Daniel représente certains jeunes aujourd'hui. Des jeunes qui ont été maudits. Des jeunes sur qui on a prononcé une parole de mort. J'étais dans un magasin avec mon épouse et j'ai vu une maman dire des paroles de mort. Je n'ai jamais vu autant de paroles de mort sortir si rapidement d'une bouche, d'une mère envers son petit garçon. T'es juste un ci, t'es juste un ça. Ta 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 ta. Elle l'a criblé de balles. Le petit garçon est resté comme ça froidement. Mais vous n'allez pas me faire croire que ça fait rien dans son cœur. Et Daniel était comme ça. Il y a des jeunes qui sont ici aujourd'hui. Il y a des paroles de mort qui ont été dites sur vous. Peut-être dans ta famille. Peut-être tes amis, peut-être ton entourage. Mais j'aimerais te dire ceci. Daniel a eu une porte de sortie, tellement simple. Mais la Bible dit que Daniel s'est consacré à Dieu. Et à travers les années, à travers le livre de Daniel, vous savez qu'est-ce qui est incroyable? Au début, quand le roi appelait Daniel, il disait, « Faites venir Belshazzar! » Et puis un peu plus loin, une autre histoire nous dit, « Faites venir Belshazzar qu'on appelait aussi Daniel! » Et un peu plus loin, ça dit, faites venir Daniel, qu'on appelait aussi Belshazzar. Et un peu plus loin, vers la fin du livre, ça dit, faites venir Daniel. Cet homme a vaincu tout un empire. Il a pu rejeter toute la malédiction qui avait été mise sur sa vie. Simplement parce qu'il s'est consacré à Dieu. Dieu l'a couvert, comme l'huître couvre le petit grain de sable d'un acre et qui lui accorde de la valeur. Écoutez-moi les jeunes. Il y a des jeunes qui sont ici cet après-midi et vous vous dites, je n'ai aucune valeur. Comme un grain de sable n'a pas de valeur. Mais Dieu veut te prendre et faire de toi une perle d'une valeur inestimable dans sa main. Et je veux prier pour vous. Je demande à tout le monde de pencher la tête, de fermer les yeux. J'ai terminé. Je m'excuse, je ne veux pas vous retarder trop. Mais s'il y a un jeune qui est ici, qui veut dire, pasteur, priez pour moi. Priez pour moi. Je veux que Dieu recouvre ma vie. Je ne suis pas en paix avec Dieu. Je suis loin de Dieu. Mais j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Je me suis éloigné de Dieu. Je veux revenir à lui. J'aimerais prier pour toi. Je ne veux pas t'exposer. Je ne veux pas te livrer un spectacle. Mais j'aimerais prier pour toi.